conférences et débats.
Du prix des lecteurs de la ville de Lausanne, c'est le cycle 2018, puisque c'est le prix que nous remettrons au printemps prochain. Donc c'est la première des 6 rencontres avec les auteurs de la sélection, qui comme je pense que vous le savez, ou si ce n'est pas le cas, ben, vous avez trouvé sur vos chaises des petits dépliants, cartes postales qui rappellent qui ils sont. Ce sont Haute-Seigne, Alain Bagnou, Slobodan Despot, Damien Murit, Anne Brécard et bien sûr Laurence Boissier que nous avons le plaisir de recevoir ce matin. Alors merci au Lausanne Palace de nous accueillir pour ces 6 rencontres. Comme vous le savez, le prix des lecteurs de la ville de Lausanne souhaite non seulement faire découvrir des auteurs aux lecteurs, mais aussi des lieux, l'histoire liée à l'histoire de la culture, à l'histoire de l'art et aussi au patrimoine de la ville de Lausanne. Alors, le Lausanne Palace est depuis son inauguration en 1915, hein, plus que centenaire, un lieu important du patrimoine de la ville à nos yeux. Il a accueilli depuis évidemment son ouverture des artistes, il en accueille encore évidemment toujours, que ce soit lié au monde des idées, au monde de l'art, de la musique, du cinéma et puis de la littérature. C'est intéressant de savoir qu'il a été construit sur le site de l'hôtel particulier où Voltaire a séjourné au XVIIIe siècle dans les années 1750. Là aussi un héritage des lieux important. On est ravis de pouvoir, à travers ces rencontres ici, cette année et puis 2018, de faire vivre encore davantage la littérature dans ce lieu important du patrimoine de la ville de Lausanne. On est aussi également ravis de pouvoir, grâce à ce cadre enchanteur, confortable, à la beauté des lieux, à l'histoire des murs, donner à ces rencontres la dimension accueillante, conviviale et aussi gourmande. Vous le verrez que nous souhaitons donner à ces 6 rencontres littéraires. Alors, je suis absolument ravie d'inaugurer ce cycle avec Laurence Boissier. Laurence Boissier, elle est artiste, elle est auteure et elle habite un petit village de la campagne genevoise avec ses 2 grands-enfants. Et puis, en plus de nous donner cet automne un très beau roman, à la fois léger, grave, poignant, un roman qui, on va évidemment parler sans tout dévoiler, c'est l'exercice d'équilibrisme de ces rencontres où parmi vous se trouvent à la fois des gens qui ont lu son roman, rentrer les classes et certains qui n'ont pas lu, qui vont le découvrir. Mais en plus de nous donner cet automne un très beau roman qui raconte donc l'histoire d'une rentrée des classes, celle de Mathilde, 9 ans, dont le père a disparu pendant l'été et qui se retrouve dans un autre moment de sa vie, au moment de faire la rentrée des classes. Laurence Boissier, c'est la seule écrivaine que je connaisse qui fasse des miracles. Je vous raconte, lors de la séance photo et vidéo que nous avons fait avec les 6 auteurs du prix de la sélection du prix des lecteurs de la ville de Lausanne, nous avons demandé à chacun de venir avec un objet pour poser en photo et puis tourner cette petite vidéo de promotion et de rayonnement du prix. Alors Laurence Boissier nous a dit, moi je viens avec le vent et l'eau. Alors on était interloqués, on se dit, mais comment elle va faire ça? Et elle l'a fait, elle a rempli un bocal d'eau, et puis devant la caméra, elle a soufflé dans le bocal rempli d'eau. Et elle a fait entrer le vent et l'eau dans le studio photo. Voilà, je vous remercie d'accueillir Laurence Boissier, magicienne et écrivaine. Laurence Boissier, bonjour. Alors, le micro et le micro est allumé.
Bonjour.
Alors, elle porte dans les bras un secret bien gardé. Ce sera l'objet. comme vous le savez, la tradition veut que nous demandons à chaque auteur reçu durant ce cycle de mire avec un objet, et là il est bien emmailloté, donc on va le laisser cacher jusqu'à sa découverte. Alors bienvenue aux... Merci les rencontres, bienvenue au Lausanne Palace. Question rituelle là aussi, les Lausannois le samedi matin vont marcher ou viennent ici pour nos rencontres. Qu'est-ce que vous faites habituellement le samedi matin?
Samedi matin, je vais au péché mignon. Je commande 3 œufs au plat et je bois un expresso avec un verre d'eau et là je me mets à écrire.
Aussi samedi matin, pas de week-end pour les braves écrivains.
Bah c'est ça, c'est mon plaisir.
Et puis, comme nous inaugurons ce cycle de rencontres ici au Lausanne Palace, vous qui avez écrit votre livre précédent, ça intitule « Inventaire des lieux », effectivement, qui prend des lieux insolites ou connus et qui s'interroge sur leur usage. Qu'est-ce que ce lieu, qu'est-ce que les hôtels, les palaces vous inspirent?
C'est la première fois que j'entre dans un palace, je crois.
Ah ben, ravi que ce soit grâce à nous. Alors, je ne sais pas si on peut même vous demander une chambre pour tout à l'heure. Mais...
oui, c'est...
Est-ce que vous aimez les hôtels, les chambres d'hôtel?
J'adore les hôtels, j'aime encore mieux les auberges de jeunesse où on dort à de nombreux dans une chambre.
D'accord, alors encore plus le camping, où là on est vraiment les uns sur les autres.
Oui, j'aime bien le fait de se retrouver pour dormir.
D'accord. L'un n'empêche pas l'autre. À mon avis, s'il vous donne une clé pour un passer le week-end ici, il y aura un petit coup de reviens-y.
Non, ça donne une bonne énergie, je trouve, pour la nuit, d'avoir plein de gens dans un même endroit.
Alors, le livre qui figure sur la sélection du prix des lecteurs de la ville de Lausanne, c'est donc « Rentrée des classes », c'est paru chez Art et Fiction. C'est déjà un très joli objet, hein, c'est un peu la marque de fabrique d'ailleurs des éditions Art et Fiction, de faire des beaux livres avec des belles couvertures, du beau papier. Mm-hmm. « Rentrée des classes » est paru à la rentrée, c'est un des livres de la rentrée littéraire. Comment est née Rentrée des classes? D'où vient Rentrée des classes? Racontez-nous un petit peu ce qui vous a fait porter et puis accoucher. Hein. Souvent les écrivains utilisent ce mot accoucher de Rentrée des classes.
C'est un mot qui convient très bien. Ma trame de base, c'est ma vie, c'est-à-dire que simplement la trame de base, hein, la disparition du père. Puis à Genève, on a cette rêve et voilà, le pont le plus laid de la Suisse, ça s'appelle le pont du Mont Blanc.
Bientôt, vous aurez un autre très grand, très laid, non?
Celui-là, vraiment, il remporte la palme, il a remplacé un superbe pont qui était là avant. Et moi, j'ai l'habitude, en tant que. Je traversais souvent ce pont, et puis il est rythmé par des drapeaux, et je me disais encore 3 drapeaux, encore, parce qu'il était très, très long. Et en traversant le pont du Mont-Blanc, donc j'ai la vue sur l'appartement où j'habitais quand j'étais petite fille. Et puis je chaque fois ça me revient, cette histoire de vent, de longueur du pont. Pour moi c'est rien le pont du Mont-Blanc aujourd'hui. Je traverse en quelques, je sais même pas une minute, mais pour la petite fille que j'étais c'était très très long. Et c'est pour ça que dans le livre aussi il y a beaucoup de questions d'échelle et de nombre, de chiffres. Ça vient de ces drapeaux, etc.
Mais alors, vous dites que c'est votre histoire. Alors, donc, effectivement, Rentrée des classes suit principalement Mathilde, qui a 8-9 ans, et qui effectue sa rentrée des classes avec ce passé tout proche qui est la disparition. Vraiment la disparition, c'est le mot qui est utilisé, il n'y a pas le mot mort, décès, la disparition du père qui a disparu avec son bateau dans le lac. Il travaillait, enfin, il revenait chez lui. Voilà. Et Mathilde, il y a la mère de Mathilde, le frère de Mathilde, le chat de Mathilde, et puis on voit aussi l'employeur de la mère de Mathilde, qui est un directeur de musée de porcelaine. Voilà, c'est un petit peu les personnages principaux de ce roman. Et puis, on suit quelques semaines, peut-être un mois, dans la vie de ces personnages-là. Quoi. Mathilde, est-ce que c'est finalement ce sont vos souvenirs ?
Non.
Vous avez, le récit se passe en 1973.
Oui, c'est vrai.
Vous aviez vous-même 8 ans,
oui.
Donc l'âge de Mathilde.
Oui. Oui, on pourrait croire que c'est un récit, mais en fait, non, c'est un roman parce que j'ai juste gardé la trame de base. Et puis, alors évidemment, je me suis appuyée sur des lieux qui sont réels, des souvenirs réels, par exemple la télévision, ce qui passait à la télévision, etc. Mais les personnages sont complètement inventés. Même le personnage de Mathilde, qui ne ressemble pas du tout. Alors, moi, je n'ai pas du tout réagi comme ça. Par contre, il y a un élément qui reste, c'est l'élément de la disparition, parce que mon père est bien mort, mais comme on n'en parlait pas et comme on n'invitait pas les enfants aux enterrements à ce moment-là, eh bien, pour moi, il était encore en vie quelque part. Et puis moi, j'ai jamais su vraiment clairement qu'il était mort. Alors c'est pour ça que j'ai utilisé un disparu.
Oui, parce que c'est comme ça que la petite fille que vous étiez aussi a ressenti, oui. Voilà, une absence, une disparition.
Il n'y a pas de corps.
On reviendra à cette petite Mathilde, mais pourquoi, pour revenir au vent, à l'eau, pourquoi, selon vous, le vent et l'eau sont ce qui symbolise et qui résume ce livre ? Et que c'est le vent et l'eau qu'elle avait choisi justement pour symboliser le livre, à la fois dans la vidéo et puis vous revenez souvent sur ces deux éléments.
Parce que c'est ce qui a déclenché mon travail. Et ce sont deux éléments qui m'ont accompagnée. C'est pas la première fois que je parle d'eau et c'est pas la dernière fois. Et c'est très important pour moi cette histoire de sortir de l'eau, parce que plus le père est accepté comme étant mort, plus je sors de l'eau. Donc voilà, pour moi l'eau c'est important. Et puis évidemment, j'habitais vraiment sur la rade et j'ai toujours eu ce vent. Voilà.
Quand vous dites ça a déclenché, c'est-à-dire comment ce livre est né ? Est-ce que vous l'avez écrit sur plusieurs années ? Quel était l'élément déclencheur ? C'est-à-dire, un jour, vous avez traversé du vent, traversé une nouvelle fois cette rade sur ce pont, et vous avez dit, Mathilde, l'histoire de Mathilde, je dois l'écrire.
Oui, probablement, c'est aussi partie d'un lieu, parce que j'écris toujours sur les lieux. Cet inventaire des lieux, et puis il y a des lieux que j'ai plus envie de développer que d'autres. Donc il me semble que c'était un lieu au départ, et puis c'est parti de là, et puis d'une de mes traversées du pont, qui sont nombreuses.
Quel lieu, précisément, au départ ?
Je crois que c'était la rade. Et puis j'ai aussi écrit sur la rade dans ce bouquin sur Genève. Donc c'est important pour moi, la rade.
Ouais. Et votre relation, alors, d'amour-haine, à cette rade.
Bon, c'est vrai que le pont du Mont-Blanc est particulièrement raté, ça c'est vrai. Mais la rade est belle. La rade est belle. Elle pourrait être 10 fois plus belle, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures, des choses comme ça. Mais cet espace est extraordinaire. Je veux pas me vanter, je sais qu'à Lausanne, vous avez aussi
une portion de lac. Vous pouvez y aller avec votre amour. Justement, parlez-nous de votre amour pour Genève, de votre lien.
Non, il n'y a pas d'amour pour Genève. Non, j'aime beaucoup mon côté gallois. Je mise beaucoup là-dessus. Et quand à Genève, quelqu'un me parle et quelqu'un d'inconnu me parle, je pense que c'est miraculeux.
Votre côté gallois, c'est-à-dire votre père était gallois ?
Non, ça c'est ma mère qui était galloise, qui est encore galloise.
Voilà. Et pourquoi qu'est-ce qui vous plaît dans cet aspect gallois ? Qu'est-ce que vous devez à votre mère et à son côté justement, ses origines galloises ?
Je vois tout mon côté artiste. Ma mère était cantatrice. Et elle a un côté artiste incroyable qu'elle reconnaît pas. C'est pas une artiste d'art brut, mais si on lui demande de dessiner un canard, par exemple. Elle va dessiner un canard magnifique avec beaucoup de caractère, mais puis après elle va dire ouf, c'est rien du tout, mets-le à la poubelle. Voilà. Bon. Alors moi, j'ai hérité de ce côté artistique de ma mère, mais je ne chante pas.
Oui, mais c'est pas gallois, ça. Il y a du gallois.
Alors, je ne sais pas. Non, en fait, ils ont tendance à chanter beaucoup.
Ouais. Mais pas vous.
Alors, moi, j'ai pris des cours de chant.
Donc, quand même, une attraction pour le chant.
Oui. Mmh. Oui.
Est-ce que, alors, Mathilde n'est pas vous, mais malgré tout, Mathilde est inspirée de votre propre expérience de la disparition de votre père, oui, à ce même âge.
Oui.
Est-ce que d'écrire ce livre, d'une manière ou d'une autre, même si c'est une œuvre littéraire, même si cet événement remonte à longtemps, ce travail a aussi une valeur thérapeutique?
Non, j'ai rien remarqué. J'ai rien remarqué. Il me semble que d'ordinaire, les gens évoluent de manière tellement homéopathique qu'on ne s'en rend pas compte. Enfin, les grandes épiphanies sont rares, en général. Je n'ai pas eu d'épiphanie. Mais voilà, c'est très progressif.
Est-ce qu'en l'écrivant, ça a été un travail qui vous a demandé de vous replonger dans des souvenirs forcément douloureux, de reparler à votre mère, de parler à votre... Est-ce que vous-même avez un frère?
Oui, j'ai un frère qui est plus âgé, effectivement. Voilà, oui.
Donc, est-ce que le travail que ça vous a demandé avant d'arriver à l'écriture elle-même, et ensuite au travail sur l'écriture lui-même, a été, lui, difficile, douloureux, au contraire, bon?
Non, parce que je l'avais déjà beaucoup fait, en fait. Ma mère n'a pas réussi à lire le livre. Et mon frère non plus.
Vous aimeriez bien qu'il le fasse.
Oui, j'aimerais bien que mon frère lise le livre parce que vraiment, je lui ai donné le beau rôle dans cette histoire, je crois.
Mais pourquoi penserait-il que ce n'est pas le cas?
Mais non, mais c'est parce qu'il m'a dit, il a lu les premières pages, puis il m'a dit que c'était un peu dur pour lui parce qu'il a vécu la même chose. Et je lui ai dit après, mais non, mais c'est un livre joyeux. Et puis, voilà, après, j'espère que vous allez lire.
Bon, joyeux, pas que.
C'est-à-dire que, oui, c'est vrai. Bon, si on traite la mort comme on la traite aujourd'hui, ce n'est pas un livre joyeux.
Mais effectivement, vous avez réussi à trouver un temps où il y a de la joie,
oui,
où on sourit. Et j'aimerais vous demander de lire juste un petit extrait qui permettra aussi de parler de la télévision, hein, vous l'avez mentionné, qui pour moi est quelques lignes qui montrent à la perfection le style à la fois léger, décalé, et puis en même temps sur un contenu complètement poignant, quoi,
depuis là jusqu'à profit. La télévision, un beau modèle avec du bois tout autour et un écran gris bombé dans lequel se reflète le plafonnier du séjour, a été installé à côté de la cheminée. Le canapé a été réorienté vers cette nouvelle chose à regarder. Le fauteuil du père est vide. À la fin des vacances d'été, avant qu'il ne parte avec son bateau, Mathilde y était encore assise sur ses genoux. Ils regardaient le feu ensemble. Il lui confiait le soin de décoller le scotch de fermeture du paquet de tabac, d'en déplier le papier plastifié, de prélever une pelote de tabac vanillé et d'en bourrer sa pipe. La mère appelait ce coin du séjour le palais du velours côtelé, en référence au tissu du fauteuil et aux invariables pantalons du père et de la fille, brun pour le père, orange pour la fille. Mathilde s'assied à côté de son frère sur le canapé. C'est l'heure des mystères de l'Ouest. Dans cet épisode, James West et Artemus Gordon sont confrontés à un malfaiteur qui fait fabriquer deux cercueils à leur taille et les leur montre. Une heure après, l'affaire est réglée. C'est le méchant qui occupe l'un des cercueils. Les deux justiciers réintègrent leur train privé et le générique défile sur l'écran. Le feuilleton a remplacé le père pendant une heure. Pendant cette heure, Mathilde et Henri n'ont presque pas pensé à la disparition. La télévision est une bonne chose, mais tout de même, le mieux aurait été que les parents se soient décidés pour la télévision sans que l'un d'entre eux dût disparaître à son profit.
Oui, alors je trouve moi ce passage évidemment magnifique parce que à la fois ben, ça raconte l'éruption de la télévision tant attendue dans la vie de ces deux gamins, et puis en même temps on voit à quel point tout à coup ça vient comme un substitut, un objet transitionnel presque, que la mère installe en se disant moi je peux plus, peut-être que la télévision va les distraire de leur douleur. Alors déjà la télévision, vous-même, elle est arrivée dans votre vie comme ça?
Ouais, non, j'ai aucun mérite de mentir parce que ça c'est vrai. Effectivement, quelques jours après la mort de notre père, nous avions la télévision à la maison et j'ai vu pour la première fois Claude François, dont on parlait beaucoup à l'école.
Et vous pensez aujourd'hui que c'était vraiment une décision consciente de votre mère?
Ah oui, clairement. Et puis ensuite, nous avons eu des jouets, des pogo sticks, des tas de...
Donc elle vous a gâté?
Oui, elle nous a gâté. Elle nous a emmenés dans des magasins de jouets à Londres et on achetait tous les Action Man qu'on voulait, avec le parachute, avec la capsule pour aller dans l'espace. Voilà.
Et c'est, ça marchait? C'est-à-dire qu'effectivement, la télévision vous divertissait de votre... chagrin ou de votre, évidemment, des pensées obsessionnelles autour du père qui devait être présent dans la maison?
Je ne peux pas vous dire parce que, enfin, honnêtement, parce que j'ai tout oublié. Les sentiments, du point de vue du sentiment. Voilà, c'est allé très profond. Mais j'espère que par l'écriture, j'ai réussi à connecter quelque chose d'important.
Et la télévision a été marquante ensuite dans le reste de votre enfance? Généralement, l'arrivée de la télévision dans une famille, ça marque, parce qu'évidemment, c'est l'accès à toute cette culture de séries télévisées, de films, de dessins animés.
Oui, oui et non, parce que je me suis toujours endormie très vite le soir, donc à 8h, j'étais out, et puis j'ai beaucoup dessiné dans ma chambre. Donc oui, j'ai beaucoup regardé la télévision, mais pas
sans devenir
addict. Ouais.
Le livre est dédicacé à Georgette Gauthier, oui. Concierge du 4 rue du Mont-Blanc à Genève. Qui était Georgette Gauthier?
C'était une femme merveilleuse qui habitait là avec son frère. Elle habitait en face de nous, effectivement, avec son frère. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle était très âgée déjà, elle avait de la peine à se déplacer parce qu'elle était malade. Et puis elle s'occupait beaucoup de mon frère et moi. D'ailleurs, elle avait une télévision et c'est mes premiers souvenirs de télévision. Et avant Noël, une année, elle a construit une maison poupée pour moi avec mon frère, donc c'était un secret. Et j'étais très triste parce que j'avais plus le droit de monter chez Georgette et mon frère montait. Et après, j'ai compris qu'ils avaient fabriqué cette maison de poupée pour moi. Et je jouais pas à la poupée. ce souvenir.
Et vous avez fait semblant quand même, pour faire plaisir.
On jouait à Action Man avec mon frère.
Dans la maison de poupée. Voilà. Donc Georgette était votre concierge.
Oui, elle était effectivement notre concierge. Oui.
Alors, le morceau de musique avec lequel vous êtes venu a un lien avec Georgette Gauthier. On va tout de suite l'écouter et puis vous nous expliquerez ce que c'est. Hein. On aime bien ce petit côté, le premier qui reconnaît le morceau de musique lève la main. Et puis voilà, vous nous direz ce que c'est et pourquoi...
Oh,
voici qui est-ce et qu'est-ce que cette chanson a à voir avec Rentrée des classes.
Alors, c'est Donovan, et alors le texte, c'est le Jabberwocky de Lewis Carroll. C'est dans Alice au Pays des Merveilles. Et puis, donc, c'est en anglais, mais évidemment, on n'a pas compris grand-chose parce que ce sont des mots inventés. Et j'aime beaucoup ce poème. Parce que, non, pas seulement parce que je travaille sur la langue, mais parce que les mots sont vraiment, on les comprend sans les comprendre. Et d'ailleurs, il y a des clubs des traducteurs de Jabberwocky qui se penchent là-dessus depuis des décennies, qui essayent de traduire qu'en français.
Et alors, ce mot-là, Jabberwocky, hein, qu'on écrit J-A-B-E-R-W-O-C-K-Y, Jabberwocky. Comment est-il traduit, interprété, qu'est-ce qu'il signifie dans les mers de Lewis Carroll?
Alors rien, justement, c'est le nom d'un monstre. Puis, voilà,
c'est le nom d'un monstre. Hein.
Voilà, oui, voilà, c'est un monstre. C'est un espèce de dragon. C'est un espèce de dragon, oui. Et ouais. Voilà, alors moi j'ai pris.
Tout est bien avec
oui,
Georgette.
J'ai pris le. Non, mais bon, Georgette ne ressemblait pas à un dragon. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des écrivains. Mais en tout cas, moi, j'ai pris la première lettre du nom et la dernière, et j'ai coincé ça et j'ai fait le J.
C'est le surnom,
oui,
effectivement, que Mathilde donne à sa propre, la concierge de son immeuble.
Qui l'effraie beaucoup. La concierge lui fait très peur. La concierge a été très malade et puis elle a...
Elle a plus toute sa tête, on
elle
dirait.
Elle n'est pas très, peut-être, difficile à regarder pour une petite fille. Et donc, elle fait peur à Mathilde au début, puis après, ça va mieux. Et moi, j'ai décrit un peu cette concierge comme une sorte de dragon.
D'où voilà. Le lien avec le Jabberwocky qui nous a permis d'entendre Donovan ce matin. Vous étiez fan de Donovan?
Pas du tout, non. Non. Moi, c'était super tremblant.
C'est bien aussi. Alors, peut-être un peu moins poétique.
Si, quand même. Oui. Mais c'est pas Donovan qui a écrit les paroles, alors que Supertramp, oui.
Vous-même, justement, quelle adolescente ou petite fille étiez-vous? Si vous ne. Peut-être qu'elle est très comment, aviez-vous avec Mathilde, malgré tout? Quelle petite fille étiez-vous?
Elle est très douée pour les mathématiques, pas moi. Ensuite, moi, j'ai vite été grande. Alors, je suis désolée, mais c'est vrai que ça ne devrait pas être très intéressant, mais ça l'est, parce que ça colore vos relations.
Grande.
En taille.
D'accord. Parce que là, je le voyais plutôt métaphoriquement. Là, évidemment, le décès du père vous a forcé à grandir.
Ah non, seulement en taille. Moi, je suis pas grandie vite autrement. Mais en taille, j'ai tout de suite été grande. Donc ça a beaucoup changé mes relations. Et puis, comme j'avais perdu ce père, moi, je ne me suis pas mise dans une armoire, mais j'ai arrêté de parler. Je n'ai pas parlé pendant des années. Et donc,
pas parlé du tout.
Non, pas parlé.
Ni à la famille.
Non,
ni à la maîtresse d'école.
Je parlais pas. Et donc voilà, évidemment, alors vous aviez cette grande fille qui disait rien. Bon, voilà, c'était un peu particulier. Mais j'ai appris après à avoir des relations plus ou moins normales. Mais c'est vrai que cette période de l'adolescence où on apprend à avoir des contacts sociaux, ça j'ai pas vu.
Quand vous êtes-vous remise à parler?
Vers 25 ans, comme ça. Mais évidemment,
donc, c'est graduel. Presque une dizaine d'années.
Plus. Mais c'est graduel, c'est-à-dire que petit à petit, avec certains professeurs, il s'est passé quelque chose. Ouais.
C'était clairement le choc de la.
Ah, et puis avec mes cousins aussi, je parlais. Mes cousins m'ont beaucoup aidée.
C'est clairement lié au choc de la disparition de votre père.
Oui, je pense, oui. Mais ça ne veut pas dire que ce soit dramatique en soi. Ça veut dire que moi, je l'ai pris comme ça.
Oui. C'était une décision consciente ou simplement c'est comme ça que vous êtes mis à vivre et à interagir?
Je sais pas, j'étais toute petite. Ouais. Hein. Je fais des choses bizarres. Ouais. Non, je ne peux pas vous répondre. Ouais.
Est-ce que du coup, aujourd'hui, ça reste compliqué de passer de l'écrit à la parole orale? Parce que malgré tout, vous montez sur scène avec un collectif littéraire, musical et littéraire qui s'appelle Bernie Stuberal, où il s'agit de faire ce qu'on appelle du spoken word. Oui, oui. Donc du coup, vous choisissez aussi sciemment de pratiquer l'oralité.
Oui, mais c'est un cadre sympathique. C'est comme aujourd'hui, par exemple, là, les gens sont assis et m'écoutent. Et j'ai un public captif, en fait.
Et qui est venu pour vous.
C'est donc, très confortable. J'adore faire de la scène, mais prendre la parole dans un dîner, pour moi, c'est plus compliqué quand même, parce que je sais que personne m'attend. Alors, si on pose une question, je vais répondre, mais autrement, c'est tout un travail. Quand est-ce que je pourrais dire ça? Oui, peut-être là, quand elle aura fini de dire ça, je vais dire ça, et puis quel effet ça produira, etc. Et puis le temps que j'arrive... C'est déjà
scénario
trop tard.
De discussion, en revanche,
c'est trop tard.
Alors, du coup, ça m'amène au lien avec l'écriture. Vous avez plusieurs formations, vous êtes une touche à tout. Celle que vous préférez, c'est les beaux-arts. Vous avez fait à la fois des lettres, vous avez fait une formation technique, vous avez fait une formation d'architecte d'intérieur. Vous avez fait des lettres, et puis à un moment donné, vous avez fait les beaux-arts à Genève, la Aide. Il y a une dizaine d'années.
Oui, c'est juste. Ouais.
Et l'écriture est paradoxalement née de la pratique des beaux-arts. Expliquez-nous ça.
Moi, j'ai toujours dessiné dans ma vie, et puis j'ai toujours... quand je passais devant l'école des beaux-arts à Genève, je voyais ces étudiants qui étaient là en grappe avec leurs cigarettes à la main. Et moi, je rêvais de ça, mais jamais j'aurais pensé que c'était possible pour moi. Parce qu'eux, ils étaient cool. Ça, c'était le truc de cool. Et puis, alors, bon, voilà, la vie passe. À 40 ans, je me dis, quand même, ma grande, il va falloir que tu fasses ça une fois. Et j'ai soumis mon dossier de dessin et on m'a accepté. Pourtant, j'avais 40 ans passé. Et puis, c'était l'année où Bologne commençait, donc je me suis retrouvée avec que des jeunes. Donc, j'ai pas compris pourquoi on m'avait accepté, mais en tout cas, fantastique.
Oui, en même temps, il n'y a pas d'âge limite pour s'inscrire à...
Alors, non, pour s'inscrire, non, mais c'est vrai que là, il y a quand même, ils prennent des jeunes, parce que c'est devenu de plus en plus compétitif, alors il faut des gens avec des carrières devant eux. Ils prennent plus des vieux.
Oui, bon, 40 ans... Vous êtes d'accord, 40 ans, c'est jeune.
C'est ça, c'est ce que je me disais, hein, 40 ans, je me sentais, en plus, une mentalité de jeune, moi.
Et alors, ça vous a plu. Mais vous avez fini, non pas par dessiner et peindre, mais par écrire.
Mais c'est ça qui est incroyable.
Ça s'est passé comment?
Cette histoire, je l'ai déjà racontée.
Oui, non, mais pas à nous, pas à eux.
Bon, je la raconte encore. Et c'est vrai.
Mais il y en a plein qui la connaissent. Cette fille qui rit très fort. Parce que...
Alors, voilà, je peignais, pour faire grand, je peignais des femmes nues parce que j'avais une expérience de dessin d'académie. Et puis, les professeurs étaient désespérés avec mon cas. Et ça se passait très mal, ce premier semestre.
En fait, ils regrettaient, quoi.
Ils regrettaient.
Tout simplement.
Ils ne comprenaient pas. Et pourquoi on m'avait pris, ce n'était pas les mêmes qui m'avaient accepté. Et ensuite, il y a un professeur, Claude Hubertato, qui est toujours professeur là-bas, qui m'a dit « Bon, tes peintures, elles sont nulles, mais j'aime beaucoup tes titres, tu peux les garder. » J'ai gardé mes titres.
Il faut avoir pas trop d'amour propre.
Mais c'était même ça. Pas des titres tellement fantastiques, c'était des titres vraiment très terre-à-terre.
Et alors du coup, vous avez dit « je vais aligner d'autres mots, d'autres titres, d'autres phrases ».
Oui, j'ai vraiment commencé avec les titres. Et c'était très beau dans cette école, c'est qu'on devait tout faire. On devait essayer de la vidéo, on devait essayer du son. Et je me souviens qu'on devait aussi faire de la bande dessinée. Et là, j'ai vraiment pu développer cette pratique du titre avec la BD. Et ensuite, je suis passée au livre.
Alors du coup, vous avez publié en 2011 Cahier des charges, d'autre part, Noce, édition Ripopée. Et puis, en 2017, ben, vous avez reçu un prix suisse de littérature pour Inventaire des lieux, donc celui qu'on a cité, qui a été paru en 2015. Donc du coup, l'écriture a remplacé tout le reste, c'est-à-dire a remplacé le dessin, les autres pratiques artistiques.
Provisoirement, j'aimerais bien faire une bande dessinée.
Ou il y a les deux.
Mais on oublie comment dessiner. J'ai perdu la main. Il faudrait que ce soit des dessins vraiment très simples, des élévations, des choses très très simples. Mais c'est possible.
Alors, parlez-nous de quel est votre plaisir d'écrivaine, d'auteur. Qu'est-ce que c'est pour vous que d'écrire?
En tout cas, je ne peux pas écrire pour le tiroir, donc je sais que le plaisir d'écrire, ça va être le plaisir de communiquer quelque chose. Donc j'ai besoin d'une énergie en retour. Je ne sais pas quelle quantité d'énergie il me faut pour avoir vraiment une satisfaction, je ne crois pas beaucoup. Donc le fait de publier en Suisse romande, ça va très bien. Le plaisir d'écrire, c'est le plaisir de communiquer, donc, oui, puisque il n'y a pas de valeur absolue de la production artistique chez moi, puisque c'est la réaction du public que je cherche.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui raconter à ce public de lecteurs? Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer? Qu'est-ce qui vous inspire en disant ben ça, voilà, ça c'est quelque chose que je peux mettre en mots avec mes mots pour ensuite le communiquer?
Pour moi, ce qui est de plus en plus important, c'est cette idée qu'on est tous un peu pareils. J'ai envie de communiquer aussi la tendresse, une tendresse qui se prévaut. Peut-être qui prévaut pas assez, mais moi, je la sens, la tendresse. Et puis, cette idée qu'au niveau moléculaire, on se comprend tous. Voilà. Mais ça va se développer petit à petit avec ce que je fais.
Est-ce qu'en tant que lectrice, c'est aussi ce que vous recherchez? Quels sont les auteurs, vos auteurs favoris ou les auteurs qui vous ont marqué enfance, jeunesse et qui vous ont peut-être apporté la tendresse que vous... Ouais. J'aime beaucoup ce mot. On l'utilise peu en tant qu'expérience de lecteur.
C'est cette tendresse, c'est la tendresse de A.A. Milne pour ses lecteurs, de l'auteur de Winnie the Pooh. C'est la tendresse de Kipling dans ses lettres pour le Père Noël qu'il a destiné à ses enfants, mais qui ont évidemment été publiées, et ses dessins. Pour moi, ça va pas. C'est pas le suspense ou la trame qui va être importante. C'est vraiment d'aller voir dans la phrase si elle est là.
Et actuellement, vers quels auteurs vous tournez régulièrement quand vous savez que vous allez trouver cette relation-là?
Alors, j'ai beaucoup aimé Alison Bechdel pour ça. Et puis Guy Delisle. Bon, c'est des deux auteurs de romans dessinés, en fait, ou de reportages dessinés.
Guy Delisle et
Alison Bechdel.
Alison Bechdel.
Oui, qui a fait des choses fantastiques sur son père et sur sa mère. Et puis, elle a un côté vraiment caustique, voire ironique, mais la base, c'est la tendresse.
Alors, vous êtes venue avec un objet auquel on peut lier le mot tendresse.
Mais je ne sais pas si c'est un objet.
Non, alors, c'est vrai.
Alors, il n'est pas très actif, mais voilà, ça c'est...
Tu as déjà mis la couverture.
C'est mon petit io.
Alors, ceux qui ont lu le livre sauront ce que c'est. On peut peut-être bien le tenir bien en haut comme ça. Alors, décrivez-nous.
Il n'a pas l'habitude de...
décrivez-nous ce que vous tenez entre les mains.
Alors ça, c'est mon petit io, c'est donc l'âne dans les histoires de Winnie the Pooh. C'est un âne qui a toujours des injustices qui lui arrivent. Et il est toujours un peu dépressif, comme ça, déprimé. Et il m'a toujours accompagnée, voilà, io.
C'est le vrai. Oui, je veux dire, c'est celui que vous aviez, ou vous en avez finalement refait un avec effectivement vos doigts de fée, vos talents pour voilà, fabriquer des talents.
Non, c'est le vrai. D'ailleurs, il est un peu bossu maintenant parce que l'étoupe, c'est. Moi, je l'ai lavé plusieurs fois, alors l'étoupe, ça a fait des petites bosses comme ça.
Et on le trouve aussi, c'est un personnage.
Oui, important, c'est voilà. Un des personnages principaux.
Pourquoi il est si important justement pour Mathilde, l'héroïne de rentrée de classe?
Parce que j'essaye de décrire les émotions sans les décrire, donc j'essaye de remplacer des personnages et des événements. J'essaie de remplacer les émotions par des personnages et des événements, puis ça me permet de faire sentir quelque chose de profond. Au propre et au figuré, parce qu'il a une aventure qui l'amène dans les profondeurs, et en plus, c'est la petite Mathilde le sacrifie. Donc, ça me permet de dire des choses. Et aussi, ça me permet, quand il est au fond de la chute, ça me permet d'évoquer toutes ces histoires de l'infiniment petit qui me tiennent à cœur.
C'est vrai que j'avoue que c'est un des moments les plus choquants du livre. Je ne pensais pas que pouvait être choquant juste une scène où une petite fille jette sa peluche.
Oui, surtout que ça se passe au début. C'est étonnant que ça vous ait.
Et par contre, vous êtes Io est un des personnages. Vous vous mettez dans son intériorité quelque part. Vous lui donnez la parole.
Non, pas vraiment. Il n'a pas la parole, mais c'est vrai que c'est un. Il a des chapitres qui lui sont entièrement dédiés. Et c'est-à-dire que je me mets à sa place, en fait, plus compliqué que ça, mais ouais.
Est-ce que c'est. Mais ça m'a paru très difficile. Est-ce que écrire, se mettre presque dans la. Essayer de décrire ce que ressentait cette peluche abandonnée. C'était aussi difficile que de parler à la place de Mathilde.
Non, parce que je le connais bien, ça fait des années qu'on est ensemble. Il n'y a pas de problème.
Nous allons ouvrir la discussion au public. S'il y a des remarques ou des questions sur ce qui a été dit, on va lever juste la main et puis Laurence Boissier, évidemment. Alors, madame, tout devant. Attendez, en fait, je vais juste vous donner le micro, comme ça tout le monde entend aussi les questions, les remarques.
Oui. Pasteur Jacques, je voulais vous demander, vous avez commencé quand à écrire? À quelle aventure?
Après 40 ans, en fait. Ouais. Avant, j'avais écrit dans un cadre professionnel. J'écrivais parce que je travaillais dans le domaine de l'énergie, et puis j'écrivais des lettres, ou des discours, ou des projets de loi. Voilà. Auquel j'essayais d'amener un petit twist. Le twist était censuré souvent. Un peu frustrant.
Vous allez garder que les twists.
Ah oui, mais il y a quand même du boulot. Hein.
Voilà. Qui d'autre?
Est-ce que l'anglais ou le gallois était présent dans la famille à travers ta mère?
Oui, ma mère nous a toujours parlé en anglais.
Tu le parles?
L'anglais?
Non, le gallois. Ah, l'anglais.
Non, j'ai essayé. Ma mère n'avait pas le droit de parler gallois à l'école. Donc, voilà. Malheureusement, elle ne parle pas super bien, mais elle le parle, elle le comprend. Et puis, donc, moi, j'ai essayé parce que j'ai pour la scène, j'ai écrit un texte avec tous les prénoms de ma famille. Je trouve que c'est un très beau texte qui est très comme ça sonore, qui est très crunchy. Mais donc ma mère m'a appris à prononcer ces noms. J'ai beaucoup de peine. C'est très très compliqué. Alors, par contre la langue anglaise et l'humour anglais, je pense que j'en ai besoin dans mon écriture en français. Je les utilise en fait en français.
C'est-à-dire que vous pensez où les mots viennent d'abord en anglais?
Non. C'est la manière de penser.
Oui, les tournures.
Jean dit understatement. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais effectivement, c'est tout. Oui.
Non, c'est suggéré. Sous-jacent.
Oui. C'est dommage qu'on ne puisse pas le dire en français.
C'est pour ça qu'on utilise.
Mais il y a sûrement un mot, mais.
Quelqu'un d'autre? Une autre question, remarque? Je vois que le galop a inspiré plein. Je commence par la plus proche. Pardon.
J'ai lu votre livre et j'ai beaucoup aimé. Et puis, je voulais regarder sur Internet, mais finalement, je n'ai pas encore regardé. Est-ce que ce musée de la porcelaine à Genève, ça existe? Et puis, est-ce que vous avez un rapport avec ce musée?
Non, je l'ai inventé. J'avais besoin d'un lieu qui est en train de s'écrouler comme ça. Je l'ai vraiment inventé. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la famille, on avait une soupière en argent. Et ma mère l'a vendue. Et dans le livre, je raconte qu'elle a vendu une soupière en argent pour acheter une piscine. Mais c'est vrai que ma mère a vendu la soupière en argent pour acheter, je ne sais pas, une machine à laver. Mais donc c'est pour ça que j'avais toujours cette soupière dans la tête. Et c'est de là qu'est venue l'idée du musée de l'argent. Et je n'aimais pas du tout cette idée, j'ai résisté pendant longtemps à cette idée de musée de l'argenterie. Parce que quand je me balade dans la section argenterie du musée d'art et d'histoire de Genève, j'ai fait tout de suite une dépression. Et pourtant, il y avait quelque chose, là, ça accrochait.
Et est-ce que vous vous êtes aussi une fois branché sur votre âme pendant le livre en le jetant quelque part
Oui, souvent.
C'est vrai que la description de cette institution du musée est absolument hilarante. Relevez-la. Merci.
Alors, merci beaucoup pour tous les beaux moments passés à la lecture de votre livre, parce que je suis un petit peu née dans les mêmes années que vous. Et l'esthétique des pulls à col roulé m'a beaucoup parlé. Je détestais ça. Et j'ai trouvé plein de choses qui m'ont vraiment parlé. Et puis sinon, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu alors d'Hubert, le directeur, en fait, parce que ça paraît être un personnage bien dans son époque aussi, un peu de transition, bizarre.
C'est un peu un vieux jeune foie. J'en connais quelques-uns, mais pas comme lui. Hubert m'est utile parce que c'est quelqu'un qui a un problème avec son corps dans l'espace. Et puis, j'ai beaucoup aimé parler de ces rapports entre le plein et le vide, et puis les volumes dans ce livre, et les espaces comme ça. Alors, j'avais besoin de ce personnage qui ne sait pas comment placer ses mains et qui est un petit peu maladroit. Et puis après, je me suis dit, bon, il va être maladroit partout, même dans sa tête. Il va être complètement maladroit. Voilà. Mais il m'inspire une grande tendresse.
Donc Hubert est le directeur.
Oui, c'est ça, le directeur. Voilà.
Est-ce qu'à un moment, vous avez été tenté d'écrire en anglais, vu que apparemment c'est une langue que vous maîtrisez très bien et puis que ça vous permettrait peut-être de toucher d'autres publics?
Écrire des longs textes en anglais, pas, mais dans le cadre de ce collectif Bernice Tuberal, j'ai souvent été amenée à écrire des textes en anglais, et puis je trouve ça fantastique. J'ai traduit certains de mes textes pour la scène en anglais, et puis ensuite j'arrive plus à les dire en français, parce que ça fait vraiment, c'est vraiment un rythme complètement différent du français. texte court en anglais. Mais je ne veux pas non plus abuser de la situation, parce que c'est ma langue, le français. Par contre, je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose d'équivalent avec le suisse alémanique au niveau du rythme. Alors, ça, c'est le prochain défi, ce serait d'apprendre le suisse allemand.
J'avais une autre main tout près d'ici, mais je ne me souviens plus qui. Une autre question, remarque. Bon, on vous réinvitera hein, pour du slam en suisse allemand et en anglais.
J'ai compris à la fin, mais je ne sais pas si c'est juste, entre justement ce Hubert, ce directeur de ce musée, et puis la maman de Mathilde, il y a une petite histoire, quelque chose. Ah. Au début, ça a été très différent, mais après, il servait comme des points qui sortiraient.
Oui, il y a une petite histoire. Mais alors, qu'est-ce que c'est une petite histoire? Moi, avec les hommes, des fois, je vis des petites histoires fantastiques, mais qui durent 2 secondes. C'est des histoires les plus fantastiques que j'ai à raconter. Mais alors, voilà, c'est toute la question, qu'est-ce que c'est une petite histoire? Mais là, ça, je laisse ouvert à la fin.
C'est une fin ouverte.
Je dois dire que quand j'écris des textes pour la scène, j'ai le même accent que vous, et ça me permet d'entrer dans le rythme. C'est très important, que je n'ai pas en français.
Laurence Boissy, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que, après, comme vous nous avez donné envie de plonger encore plus dans votre univers de fiction, hein, puisque Rentrée des classes est présentée dans votre premier roman, sur quoi écrivez-vous? Faites-nous envie pour qu'on puisse vous réinviter l'année prochaine.
Là, je prépare une performance qui s'appelle « Histoire d'un soulèvement » que je donnerai à la Fureur de Lire en novembre. Et puis, je prépare... Le prochain livre sera un livre bilingue français-suisse-allemand avec des textes dynamiques. Et, traduit par Daniel Rothenbühler.
D'accord, pas encore par vous-même, ça ne sera pas votre premier exercice.
Non. Et puis, depuis hier, j'ai envie d'écrire un autre roman. Parce que j'ai entendu cette magnifique critique de Geneviève Bridel à la radio. Et puis, elle m'a donné envie, par son regard, sur mon écriture, de continuer à écrire des romans. Je n'étais pas sûre d'en être vraiment capable jusque-là.
Alors, d'en avoir écrit un n'est pas une preuve suffisante à vos yeux?
Enfin, il faut 20 ans pour faire un écrivain, c'est ce qu'on dit normalement. J'en suis à 10. Donc,
à mon avis, c'est encore un prénom, on se le sent déjà. Mais...
Oui, bon, dans les dîners, quand je prends la parole, je dis que je suis auteur. Mais bon, voilà, après, avec moi-même, comment ça se passe, c'est une autre histoire.
Donc, l'environnement, un thème déjà?
La mort.
Vous êtes sûr que vous n'allez pas écrire le même, hein?
Non, je ne vais pas écrire le même, mais je tiens vraiment à rendre cette histoire un peu plus digeste, quoi. Enfin, l'histoire de la mort, qu'on puisse aller plus facilement vers ce terme.
D'accord, c'est vrai que la mort est un beau mot. Ben, Laurence Boissy, on va conclure sur ce mot. J'aurais bien aimé conclure, je pense. Moi, j'aurais envie de garder le mot tendresse. Parce que déjà, c'est celui que j'ai trouvé original. Peu de lecteurs ou d'auteurs disent qu'ils cherchent à établir un lien de tendresse à travers les livres. Et puis, malgré tout cet objet transitionnel, ce petit âne peluche appelle vraiment à la tendresse. Je vous remercie infiniment pour cette discussion. Alors, ne repartez pas évidemment sans un ou deux livres de Laurence Boissier dédicacé. Laurence va s'installer à côté de notre librairie qui est assurée à nouveau, et on en est ravis, pour ce site, par la librairie Basta. Donc Laurence Boissier est là avec rentrée des classes, mais aussi le livre précédent, Inventaire des lieux, de très beaux objets. La prochaine rencontre, ça sera ici même le 18 novembre, donc samedi 18 novembre, avec Slobodan Despot pour son roman Le rayon bleu, qui a paru chez Gallimard ce printemps. Oui, et puis bon, je ne suis même pas obligée de regarder mes petits livres pour ça. Dès que les portes seront ouvertes, l'apéritif gourmand sera servi juste derrière les portes dans le grand lobby rotonde. Je remercie beaucoup l'équipe du Deuxième Palace qui va vraiment nous régaler. Et puis, à chaque rencontre, le Deuxième Palace prépare dans les choses à manger et à boire un petit clin d'œil au livre et à l'auteur. Alors, cette fois-ci, vous trouverez dans le buffet de quoi composer le goûter de Mathilde, du jus de pomme et des cupcakes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez ou que vous aimez.
Oui, bien sûr.
Voilà. Cupcakes, c'est manger. Un peu gallois.
Je ne peux pas manger parce que je vais signer les livres. C'est
alors, oui, c'est vrai. Alors, je ferai une assiette avec un verre jus de pomme et quelques cupcakes que je mettrai. Non, c'est vrai. Ça, c'est la punition de l'auteur, il est dédicace, mais du coup, il ne peut pas manger, contrairement à l'autre. Et puis, oui, alors, Lausanne Noire, le festival de polar de la ville de Lausanne, c'est du 27 au 29 octobre au théâtre 221. Donc, effectivement, trois jours de réjouissance et d'animation diverses autour du polar. Et je fais un lien avec la nourriture parce que Thierry Marx écrit son premier polar. Thierry Marx, donc le grand chef Thierry Marx, et il sera vendredi présent au théâtre 221. Ce sera aussi une belle rencontre assez gourmande, puisqu'on finit sur les cafés. Laurence Boissier, merci. Merci, mesdames et messieurs. Bonne journée.